parlais tantôt de la préparation des hôpitaux dans l'hypothèse d'une deuxième vague et on se rend compte qu'il y a quand même énormément d'inquiétudes chez le personnel. Et ça va même plus loin que les inquiétudes. Dans certains cas, c'est carrément des gens qui quittent. Et on le voit ce matin dans la presse, donc infirmières et d'autres professionnels qui décident que là, c'est assez, puis qui vont faire autre chose dans la vie. La présidente de la FIC est avec nous, Nancy Bédard. Madame Bédard, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Là, je comprends que c'est dur tout le temps dans le réseau de la santé, mais qu'en termes de départ, ce serait plus important cet automne-là.
Oui, bien, il y en a eu beaucoup, énormément cet été aussi. Depuis le mois de mars, là, on sent là, que l'effet de la première vague de COVID, mais aussi toute l'approche du gouvernement et des gestionnaires en lien avec les arrêtés ministériels qui sont venus enlever l'ensemble des droits des professionnels en soins, ça a eu des effets, puis je l'avais dit, là, ça va être complètement néfaste. À un moment donné, il faut faire la balance des inconvénients. Je pense qu'on a mal mesuré la façon dont on a obligé les professionnels en soins et on les a traités dans leurs conditions de travail. Et aujourd'hui, on a des effets dévastateurs à ce chapitre-là. Et là, on se prépare une deuxième vague. Et honnêtement, les professionnels en soins, il y en a encore moins qu'il y en avait au début de la première vague.
OK, mais ces infirmières, par exemple, vos membres, infirmières, elles prennent leur retraite, elles vont travailler ailleurs. Qu'est-ce qu'elles font?
Honnêtement, depuis le mois de juin, je suis en tournée du Québec là, et on voit de tout. On voit des infirmières qui, eux, là, dès la première journée où ils sont intelligibles, même s'ils partent avec 50% de leur EGOP, ils partent à la retraite. On en a qui s'en vont faire toutes sortes d'autres choses. Il y en a qui me disent, ben moi, là, je vais aller travailler avec mon beau-frère en comptabilité. Il va m'organiser ça, puis je vais être capable de l'aider. Je suis plus capable. Je vais tomber au combat. Je vais pas tomber malade. Mais cette charge-là mentale, le fait qu'on m'appelle à chaque jour, qu'on n'ait pas de congé, qu'on me change d'endroit à tous les jours, on a eu des congés puis des vacances cet été un peu, là, mais mes professionnels en soins, là, infirmières auxiliaires, inhalo, ont été appelés à tous les jours de leurs vacances pour qu'ils entrent en disant « Ah, tu sais, tes collègues, c'est épouvantable là actuellement l'état de charge de travail qu'elles vivent. » Puis quand elles sont au travail, c'est de la surcharge. Puis l'état de fait de situation, on est en deux vagues. Donc, techniquement parlant, on n'est plus dans le COVID à 100% depuis le mois de juin. On se prépare une deuxième vague, mais parce qu'on avait annulé des chirurgies, on a maintenu aussi les services, les blocs opératoires, notamment les services externes, environ à 70%. Et ça, ben, vous comprendrez que les gens ont travaillé doublement cet été. Donc, en plus de ne pas pouvoir se reposer beaucoup et d'avoir un moindre surcharge de travail, elles ont été là, vraiment happées par du travail cet été, une surcharge importante parce qu'on a quand même roulé les hôpitaux pour essayer de récupérer la première vague. Donc, pouvez-vous imaginer, en plein mois de septembre, l'état de situation des gens, comment ils sont épuisés actuellement, ceux qui sont encore là.
Est-ce qu'on sait, par exemple, je vais juste focusser sur les infirmières, là, je sais que vous représentez d'autres membres, là, les infirmières, disons.
Oui.
Combien il y a d'infirmières dans le réseau de la santé au Québec?
Bien, moi, j'en représente 76 000. Il y en a environ ça selon l'ordre des infirmières. Cependant, il y en a plusieurs là-dedans qui vont pas travailler dans le réseau public. Et de plus en plus, le problème, c'est qu'effectivement, il y en a qui quittent et qui vont faire autre chose ou qui vont travailler dans le privé, donc ils sont pas dans le réseau public. Alors, je peux pas vous dire les statistiques, mais quand on en a un tiers qui sont en assurance maladie parce qu'ils sont partis en invalidité, le nombre de personnes vraiment au boulot à chaque jour, c'est une problématique.
Attendez, je ne suis pas sûr que je vous ai compris. Il y a combien d'infirmières qui sont en congé maladie?
Bien, il y a au moins un tiers des professionnels en soins qui sont en congé de maladie. Là, j'inclus infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes. Mais on a besoin de tout le monde. Là. Quand on est rendu qu'on paie un demi-million d'assurance salaire par année pour les professionnels en soins, on peut juste s'imaginer. Ça a fait qu'augmenter dans les derniers mois. Et je le sens, là, on est encore dans une vague.
Mais attendez, là, je veux juste que les gens comprennent bien. Là. Mettons que vous me dites qu'il y a un tiers des employés là, du réseau là, en congé maladie actuellement, ce qui veut dire que c'est le deux tiers qui travaillent.
Oui. Puis ça, c'est à part ceux qui sont, comme je vous dis, là, il y en a qui vont partir à leur retraite, qui vont faire d'autres choses, qui vont payer leur licence. Ce qui est difficile à savoir, c'est combien il y a de monde qui ont leur licence, mais actuellement, qui sont vraiment au travail dans les établissements. Ça, c'est extrêmement difficile à avoir comme statistique. statistiques. Mais quand on regarde les gens qui partent prématurément, les gens qui ne travaillent pas dans le réseau public de santé, les gens qui sont en assurance salaire et ça ne fait qu'augmenter. Moi, je regarde là les établissements, là, puis tu sais, j'ai pas les chiffres exacts, mais quand je m'en vais en Estrie ou quand je m'en vais à l'est de l'île, puis qu'on me dit qu'ils ont des centaines de professionnels en soins en assurance salaire, à un moment donné, sur 2 000-3 000 personnes, ça va vite, là. Donc, on peut se dire que il y a des gens qui pourraient être dans le réseau, mais à cause des conditions de travail difficiles, de la non-valorisation, de la non-reconnaissance, à un moment donné, l'épuisement se fait sentir, soit qu'on part ou on tombe au combat. Et on tombe en maladie. Alors, je pense que ça prend... Là, je pense qu'on est dans un onde de choc. On a frappé le mur. Je pense que là, ça va prendre vraiment là un coup de barre au niveau du gouvernement et de la gestion pour vraiment se dire, là, c'est assez.
OK, mais Mme Bédard, si on veut être... Ouais, je comprends ce que vous dites, là, oui. Mais si on veut être réaliste, on ne peut pas revirer le bateau de même en 2 semaines, 3 semaines, même 6 mois. Là. C'est-à-dire que...
Ben, moi, je veux bien, M. Arcand, mais ça fait 1 an et demi, 2 ans que je dis c'est maintenant qu'il faut mettre des solutions parce qu'on va prendre le mur. Donc, on peut bien remettre ça au calendrier grec.
Non.
C'est parce qu'on veut fermer le réseau de la santé publique. Il faut dès maintenant donner des signaux clairs aux professionnels en soins. Il faut les valoriser, les reconnaître, leur donner les horaires stables,
mais moi,
ceux qui ne fassent pas de temps supplémentaire.
OK. Le gouvernement a imposé un décret qui enlevait certains droits. Tant qu'on ne l'exerce pas, ça demeure théorique. Est-ce que vous me dites que le gouvernement du Québec a utilisé à répétition de façon, presque arbitraire, le fameux décret pour empêcher du monde d'aller en congé, d'aller en vacances. Puis, oui, c'est ce que vous me dites, là. Que c'était pas nécessaire et qu'ils l'ont fait.
M. Arcand, c'était très néfaste. Et ils le savent. J'ai rencontré M. Dubé, Mme Lebel. J'ai rencontré des gens du gouvernement. Là, ils refont un tour de roue pour resserrer la vis. Mais ça, là, ça a été extrêmement néfaste. Les arrêtés ministériels, ça a été pas appliqué selon ce que le gouvernement avait dit de l'appliquer. Partout au Québec, on s'est servi de ça. Et même encore dans ma tournée cet été, là, on n'est plus dans des vagues COVID. Là. Les gens sont encore sur le coup des arrêtés ministériels. Ils n'ont pas récupéré leurs droits, que ce soit leur horaire de travail, que ce soit le nombre de jours qu'ils travaillent. Et les gestionnaires s'en servent maintenant ad nauseam pour dire qu'ils ont tous les droits. Ça, c'est extrêmement néfaste. Le gouvernement est avisé. Les PDG sont supposés de rentrer dans les rangs pour... On devrait plus. Puis moi, je vous le dis, même pour la deuxième vague, puis même pour les prochaines semaines, cet arrêté-là, là, elle devrait prendre le bord. Puis on n'a plus à appliquer ça. C'est néfaste qu'on applique des conditions, des moyens de reconnaissance, de valorisation, de stabilisation, une approche positive aux professionnels en soins, mais pas une approche coercitive. Je vous le dis, mon monde me le dit, c'est terminé sinon. Donc,
parce qu'en même temps, c'est qu'on tourne en rond. C'est-à-dire que le gestionnaire va me répondre, mais là, j'ai pas le choix, sinon je suis à découvert, sinon c'est une rupture de service.
Le choix qu'on a, c'est de continuer à faire déserter professionnels en soins ou de s'asseoir, les valoriser, puis de se dire, il y a certainement une approche qui va colmater l'hémorragie, qui va faire en sorte que ceux qu'on a, on va les garder au lieu de les faire fuir. Donc, c'est pas compliqué. Moi, je pense que le meilleur choix, c'est la valorisation, la reconnaissance, la stabilisation, être positive comme approche, puis on va garder au moins ce qu'on a.
OK, dernière question, parce que le temps file, là. C'est pas un jeu de négociation, là. Vous n'êtes pas là un matin pour,
Non, puis c'est juste que ça tombe comme ça. Fait que, puis moi, j'ai toujours dit, les ratios, je vous en ai parlé. Les ratios, ça fait combien d'années je vous en parle, puis j'ai dit, on ne devrait pas négocier ça. Comment de fois, j'ai demandé à Mme McCann, partez, on va émettre des directives pour les nouveaux ratios, notamment CHSLD, je le disais l'année passée. Là, c'est sûr qu'on est en négociation, mais là, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je vais essayer de voir avec le gouvernement jusqu'où on peut aller. Il faut bonifier les conditions de travail, bonifier les conditions salariales. C'est mon travail de faire ça pendant la négociation, mais j'aurais tellement aimé que les mesures soient mises en place avant cette négociation-là, parce qu'on ne sait pas où on est là aujourd'hui, probablement. Mais oui, je suis en négociation, c'est mon travail de le faire, c'est comme ça que ça fonctionne, on n'a plus de contrat de travail depuis le mois de mars, mais soyez assurés, si vous êtes honnête, à toutes les semaines, depuis 2 ans, je dis la même chose. Donc, c'est pas une question de négociation, mais là, ce qu'on veut vraiment dans ce contrat de travail-là, et ce qui va donner de l'espoir aux professionnels en soins, dans le cadre de cette négociation-là, c'est qu'il y ait clairement nos solutions qui soient mises en place pour être capables, qui voient la lumière au bout du tunnel.
Merci, Mme Bédard, bonne journée.
Merci.
Nancy Bédard est la présidente de la FIC.